Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On vit très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Bien. Je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
L'impitoyable marche du progrès ne s'arrête pas. Et quelles que soient les péripéties, l'approche banlieue de la Terre est d'ores et déjà à portée de ce valeureux conquérant du monde qu'est l'homme.
En route pour Mars.
Décollage.
C'est vous le responsable de cet embouteillage monstre.
Il y règne un froid de canard, ça souffle comme pas deux, et malgré tout, le monde entier semble s'y être donné rendez-vous. J'ai beau être taquin, je ne fais pas allusion à la Bretagne, terre d'asile de nombreux franciliens en temps de Covid, mais bien à Mars, la quatrième planète du système solaire. Rien qu'en 2021, 3 missions et 4 nouveaux robots devraient y débarquer. D'accord, ça ne vaut pas l'autoroute du soleil un 15 août, mais dans l'histoire de l'exploration spatiale, c'est du jamais vu. D'ailleurs, à moins de vivre sur la Lune, vous n'avez pas pu passer à côté du plus ambitieux de ces projets, Perseverance. Le très médiatique rover de la NASA a atterri sur la planète rouge le 18 février dernier. On le sait moins, mais il sera rejoint en mai par Tianwen 1, son concurrent Made in China. Seul au monde, ou presque, les deux robots pourront trouver un peu de réconfort en levant leur caméra au ciel. Là, ils verront sans doute passer la sonde des Émirats Arabes Unis, qui a entamé sa ronde autour de Mars le 9 février. Mais que vont-elles faire là-bas? Comme aux premières heures de la course à l'espace, ces 3 missions servent des objectifs autant scientifiques que politiques. De face plus ou moins cachée, que nous allons explorer avec le commandant de la mission 6ème Science, Franck Daninos, spécialiste en sciences fondamentales du magazine Science et Avenir. Bonjour Franck.
Bonjour Romain.
Alors Franck, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de Perseverance ces dernières semaines et ces derniers mois, puisqu'elle a décollé il y a 7 mois, je crois, c'était la mission Mars 2020. Peux-tu nous rappeler un peu ce que vient faire ce rover et plus globalement ce que vient faire cette mission sur Mars?
Alors il faut rappeler tout d'abord que c'est pas le premier rover de la NASA, c'est en fait le 5e. Le tout premier rover remonte aux années 90, en 1997 plus précisément. Donc c'était Sojourner qui était à l'époque un tout petit rover un peu de la taille d'un micro-ondes. Il pesait seulement une dizaine de kilos, rien à voir avec les dimensions de Perseverance. Donc le rover qui vient d'atterrir sur Mars il y a un mois, qui mesure à peu près 3 mètres de long, un peu plus de 2,5 mètres de large et qui pèse plus d'une tonne. Je rappelle aussi également le coût de cette mission, absolument faramineux, puisqu'il a atteint les 2,7 milliards de dollars. Mais en tout cas, ce qui le distingue surtout de ses prédécesseurs, des 4 autres rovers que la NASA a déjà fait atterrir sur Mars, c'est que celui-là aura une mission bien spécifique qui concerne l'exobiologie. En fait, il y aura 2 objectifs pour Perseverance. Le premier, c'est avec sa batterie d'instruments d'essayer de rechercher d'éventuelles traces de vie passées. Et le deuxième objectif, c'est de collecter des échantillons qui pourraient justement receler des preuves d'une vie qui aurait pu exister sur Mars il y a plusieurs milliards d'années pour qu'ensuite il puisse être ramené sur Terre dans une dizaine d'années. Donc voilà les 2 gros objectifs de Perseverance.
Si je n'ai pas dit de bêtises, l'appareil a atterri sur Mars le 18 février dernier. Est-ce que tout se passe bien pour lui depuis? Quelles nouvelles il nous donne? Est-ce qu'on lui manque?
Alors effectivement, ça fait tout juste un mois qu'on a pu vivre cet atterrissage sur Mars, là d'ailleurs qui a...
Ce amarcissage, est-ce qu'on...
Alors non, atterrissage, effectivement, je crois que c'est le mot correct, on peut pas employer amarcissage. En tout cas, moi-même, toi et beaucoup d'autres terriens avons vécu cet événement avec beaucoup d'enthousiasme. Il y avait énormément d'émotions, une sorte de Marsmania qu'on a ressenti il y a un mois. Peut-être que c'est dû d'ailleurs à la période actuelle et que ça nous a fait du bien un peu de s'extraire...
De changer d'air.
Voilà, c'est ça, des problèmes ici-bas. Mais bon, en tout cas, effectivement, depuis un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Le rover va pas débuter tout de suite sa mission. Il y a plusieurs semaines où il y a des vérifications, des tests qui sont réalisés. On s'assure tout d'abord que l'atterrissage, qui est quand même assez brutal, hein, je rappelle que la sonde est passée d'une vitesse de 20 000 km/h à une vitesse quasiment nulle. Et donc, on vérifie que l'entrée dans l'atmosphère martienne n'a pas endommagé les instruments. Donc, petit à petit, on s'assure que les télécommunications, les composants, les commandes, tous les systèmes, tout fonctionne bien. Donc, c'est ce qu'on a fait dès les premiers jours après l'atterrissage de Perseverance. Il y a aussi le mât du rover qui a été déployé, le bras articulé que les ingénieurs de la NASA ont commencé à manipuler. On a aussi vérifié que le laser de Supercam, un instrument majeur du rover, dont on va en reparler, j'imagine, fonctionne bien. Et Perseverance a aussi effectué ses premiers tours de roue. Et donc, conclusion, le rover est en très bonne santé, tout fonctionne bien. Et donc, il est fin prêt là, pour rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, et commencer sa mission.
Tu as parlé donc de la Supercam, c'est le moment de faire un petit cocorico parce que ce projet, il n'est pas seulement américain, il est européen et un peu français. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement quelle est la contribution tricolore ?
Alors, il y a effectivement plusieurs pays, plusieurs laboratoires étrangers qui collaborent avec la NASA et qui participent à cette mission. Mais parmi toutes les contributions étrangères, c'est la France qui apporte les principales. La France est d'ailleurs le principal partenaire, collaborateur de la NASA pour tout ce qui concerne les missions martiennes, non seulement pour Perseverance, mais pour les missions précédentes comme InSight ou le rover précédent qui s'appelle d'ailleurs toujours, puisqu'il est toujours en activité, donc il s'appelle Curiosity. Bref, effectivement, donc la France et la NASA collaborent étroitement donc pour toutes ces missions martiennes. Et pour celle-là, elle a fourni des contributions décisives pour un instrument qui s'appelle Supercam. En fait, le rover Perseverance possède 7 instruments. L'un des principaux instruments, c'est Supercam. Alors, qu'est-ce que c'est que Supercam ? C'est un peu les yeux et les oreilles du rover. C'est ce qui lui permet effectivement d'analyser et d'appréhender son environnement. On parle aussi un peu de couteau suisse parce qu'à l'intérieur de Supercam, qui est une boîte qui mesure un peu quelques dizaines de centimètres de long et de large, hein, pour vous donner une idée, à l'intérieur, il y a plusieurs instruments. Il y en a 5. Il y a une caméra haute résolution, donc qui donne des images absolument fabuleuses là, de l'environnement du rover. Il y a aussi 3 spectromètres qui permettent d'analyser à distance, d'une distance de quelques mètres jusqu'à l'horizon, la composition chimique et minéralogique donc des roches environnantes. Et un 5e instrument qui est donc un microphone. Un microphone qui est vraiment une première. On n'a jamais encore écouté les bruits sur Mars et on commence seulement à le faire. Et donc tout ça a été conçu en très grande partie en France. Il y a un effort très important qui a été réalisé pendant près de 5 ans par près de 300 ingénieurs, techniciens et chercheurs français, donc issus d'une demi-douzaine de laboratoires. Et donc, ils ont fourni effectivement cette contribution essentielle à Perseverance qui permettra en fait de guider le rover, de repérer les roches, les échantillons qui semblent les plus intéressants et effectivement de diriger l'engin, le robot vers ses cibles.
On va intégrer à l'épisode la captation sonore qui a été réalisée le mois dernier par justement la Supercam. Vous allez l'entendre, ça ne change pas grand-chose d'un micro que vous tendriez dehors. Hein. C'est du silence et un petit coup de vent. La différence, c'est quand même, et je voudrais pas qu'on s'éparpille, mais c'est vrai que c'est un point qui est quand même intéressant, c'est qu'on n'écoute pas Mars comme on écoute la Terre. Il y a des conditions météorologiques et acoustiques qui sont tout à fait particulières.
Alors effectivement, juste un mot tout d'abord sur le niveau de la perception et de la symbolique. C'est vrai que c'est quelque chose de très fort et de très émouvant de pouvoir se dire qu'on écoute des sons qui sont produits sur une autre planète, à 200 millions de kilomètres de nous. Ça la rapproche, hein, en quelque sorte, ça rend cet environnement encore plus familier. Jusqu'à présent, effectivement, on avait tout un tas de robots qui nous donnaient des images, donc ça nous permettait d'avoir un peu des yeux sur Mars. Le sens du goût pouvait être donné aussi par une batterie d'instruments, des spectromètres qui nous permettent d'analyser des informations sur la chimie de ce qu'il y a sur Mars. Mais là, effectivement, on a pour la première fois un autre sens, donc le l'ouïe. On peut pour la première fois effectivement entendre le bruit des vents, des tempêtes, des tourbillons de poussière, donc tout un tas de phénomènes météorologiques. On pourra écouter bien sûr aussi les bruits du rover. D'ailleurs, ils ont été communiqués il y a seulement quelques jours par la NASA, où on entend ce bruit donc caractéristique donc des roues là, du rover donc à la surface rocailleuse et poussiéreuse de Mars. Donc c'est effectivement très impressionnant. Mais si la NASA a accepté effectivement cette proposition des Français, donc c'est des chercheurs toulousains qui ont voulu mettre un microphone sur Persévérance, il y avait effectivement l'aspect cool, si je puis dire, et communication qui permet de mettre Mars encore plus proche de nous. Mais il y a des objectifs scientifiques à ça. Et la NASA avait dit OK, si effectivement ce micro peut vraiment apporter quelque chose au niveau faire de la science. Alors quelle est cette science? Mettre un micro sur Supercam et donc sur le rover Persévérance, ça permettra en fait d'écouter les bruits que feront les tirs de laser sur les roches autour du rover. En fait, imaginez que vous preniez un marteau et qu'on tape sur différentes roches en fonction de la densité, de la dureté, si elles possèdent de l'eau ou pas, on aura un son différent, toc toc toc, ou un son un peu plus grave ou plus rapide. Et en fait, grâce à ce micro et en écoutant les sons que produiront les tirs du laser sur les roches, donc les ingénieurs, les scientifiques pourront avoir des informations sur l'environnement de Persévérance et là aussi dire, tiens, voilà, cette cible est particulièrement intéressante, on va s'en approcher, l'échantillonner et récupérer des fragments. Donc il y a vraiment un vrai intérêt scientifique à ce microphone martien.
Et il y a eu des difficultés, j'imagine, pour créer un micro qui soit compatible avec l'atmosphère et la météo martienne.
Tout à fait. Alors évidemment, sur Mars, tu l'as rappelé tout à l'heure, il fait très froid.
On se les caille.
Donc la température moyenne est autour de moins 60 degrés et ça peut descendre jusqu'à moins 100. Donc effectivement, il fallait un microphone donc, qui résiste à ces variations de température très importantes. Un microphone, comme tous les autres composants d'ailleurs, mais qui résiste au rayonnement ultraviolet, au rayonnement cosmique. Il y a tout un travail d'ingénierie pour adapter ce microphone à l'environnement martien. Et puis effectivement, cet environnement qui est très différent d'un environnement terrestre quant à la propagation des ondes sonores. On sait que l'atmosphère de Mars est beaucoup plus ténue, la densité est 100 fois moins importante que sur Terre. C'est une atmosphère aussi sur Mars qui est complètement saturée en dioxyde de carbone, à peu près à 96%, ce qui fait que les ondes acoustiques, les ondes sonores se propagent de manière très différente à ce qui se passe sur Terre. Elles se propagent en fait beaucoup moins bien, beaucoup moins vite, et surtout il y a certaines fréquences qui sont absorbées. Parce que le dioxyde de carbone absorbe les très hautes fréquences, en gros les aigus, ce qui fait que effectivement les sons martiens vont apparaître de manière beaucoup plus étouffée et plus grave. Donc c'est ce qui différencie par rapport à ce qu'on peut écouter sur Terre.
Très belle mission, très agréable.
On a fait un petit crochet pour parler du projet français. Là, on va plutôt s'intéresser aux autres projets internationaux parce que si on parle de Ruée, c'est qu'en plus de Persévérance, deux autres missions ont déjà atteint le ciel martien. Il ne s'agit pas des Russes, mais bien des Chinois et plus surprenant, des Émirats Arabes Unis. Il y a de la place dans l'espace, hein, c'est pas l'autoroute, on l'a dit tout à l'heure, mais pourquoi on se retrouve avec autant de circulation là, maintenant, en 2021, autour de Mars ?
C'est vrai qu'on a l'impression que ça se bouscule sur Mars, qu'il y a un vrai embouteillage, comme si la Terre avait d'un coup décidé de prendre d'assaut la planète rouge. Alors ce tir groupé, si je puis dire, de ces trois missions, donc américaines, chinoises et émiraties, elles résultent tout d'abord du fait qu'on ne peut pas envoyer n'importe quand donc un vaisseau à destination de Mars. Il y a une fenêtre de tir très particulière, une période qui revient tous les 26 mois. Et donc, effectivement, ces trois missions sont arrivées en même temps parce qu'elles sont parties en même temps, profitant de la même fenêtre de tir qui s'était ouverte donc, il y a 8 mois de ça, donc en juillet 2020. Mais si ça se bouscule aujourd'hui sur Mars, et si effectivement ces trois pays ont décidé d'envoyer des sondes sur la planète rouge, c'est parce qu'effectivement, il y a clairement un regain d'intérêt pour tout ce qui concerne l'exploration spatiale, c'est dû en grande partie au réveil de la Chine. Il y a eu évidemment une grande période de creux dans l'exploration du système solaire et puis depuis quelques années ça revient de plus belle avec un intérêt redoublé, des cibles privilégiées qui sont la Lune mais aussi Mars. Donc effectivement tout le monde veut en être. Donc les Américains, ça fait très longtemps. Je rappelle que les premières missions, le programme martien aux États-Unis remonte aux années 60, donc il est très ancien. En revanche, pour la Chine, c'est une première et pour les Émirats Arabes Unis aussi.
Avec des différences. C'est-à-dire que sur le projet Emirati, par exemple, il n'y a pas grand-chose qui vient vraiment du Moyen-Orient.
Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose...
Ils ont mis l'argent, quoi.
C'est quelque chose d'assez inédit dans les missions d'exploration, les missions interplanétaires, puisque, effectivement, c'est une mission qui se fait sous pavillon Emirati, mais quasiment tout a été construit donc, par des partenaires étrangers. Donc, à commencer par le vaisseau lui-même, donc, qui a été construit par des Américains. Et puis, les instruments. Il y a trois instruments sur la mission à la malle, des spectromètres et des caméras, donc, ont été, là aussi, construits par des universités américaines. Et ça va jusqu'au lancement même, qui a été effectué au Japon, donc, par une fusée japonaise. Donc, effectivement, on a un peu l'impression que les Émirats Arabes Unis ont voulu s'offrir un peu une mission spatiale et qu'ils ont déboursé pour ça plusieurs centaines de millions de dollars. Mais bon, c'est aussi un pari pour ce pays qui compte profiter de cet élan pour susciter des vocations scientifiques, qui compte beaucoup apprendre au contact d'autres partenaires beaucoup plus expérimentés, qui met aussi d'ailleurs à la tête de sa mission qui a mis une femme. Et d'ailleurs, de manière générale, dans le spatial émirati, beaucoup de femmes sont représentées. C'est vrai que, de manière générale, les Émirats Arabes Unis comptent en fait sur le spatial pour insuffler quelque chose, pour donner une image d'un pays moderne, tourné vers l'acquisition de nouvelles connaissances, tourné vers les nouvelles technologies. Il y a évidemment tous des aspects politiques et géopolitiques. Hein. Il s'agit de renforcer une image et un leadership dans la région, dans un contexte de diversification économique. Mais bon, en tout cas, là, c'est un projet qui est tout à fait inédit et puis bon, qui est couronné de succès, puisque effectivement, la sonde à la malle s'est correctement satellisée donc, le mois dernier autour de Mars. Donc, elle va petit à petit rentrer dans une orbite scientifique et commencer. Donc, c'est à prendre des mesures qui sont très attendues par la communauté scientifique.
Qu'est-ce qu'elle va apporter justement cette sonde Al-Amal ?
Alors en science, il s'agit souvent d'essayer de faire quelque chose de différent que les autres n'ont pas fait. Alors il y avait effectivement parmi tout un tas de missions et de projets possibles, celui qui a été retenu par les Émiratis, donc consiste en fait à insérer une sonde dans une orbite qui n'a jamais été empruntée par les sondes précédentes. Les sondes martiennes gravitent actuellement sur une orbite polaire assez proche de la planète et donc là, la sonde Al-Amal s'est insérée dans une orbite beaucoup plus elliptique qui n'est pas une orbite polaire et qui permet en fait d'avoir régulièrement une vision globale de la planète. Mmh. Et donc pour la première fois, à intervalles réguliers, on aura des instantanées, des photographies vraiment globales de la planète et surtout du coup ça nous permettra de voir des phénomènes météorologiques dans leur globalité qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, comme la naissance, comme la formation des nuages ou des tempêtes de poussière. Donc ça apportera vraiment des nouvelles connaissances et donc c'est pour ça qu'effectivement les scientifiques sont absolument ravis que les Émirats Arabes Unis aient décidé de mettre sur pied cette mission.
Quand tu parles d'orbite polaire, c'est qu'en gros c'est une orbite qui est verticale, c'est ça?
C'est une orbite qui
passe au pôle nord et au pôle sud de Mars.
Absolument, qui tourne autour des pôles. Et donc là, on a une orbite beaucoup plus inclinée, puis comme je le disais, beaucoup plus elliptique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à certains moments vraiment très loin de la planète et on aura donc des points de vision qu'on n'avait pas jusqu'à présent.
Sur le projet chinois, il est assez étonnant puisqu'il est à la fois très ambitieux et un peu en deçà techniquement de ce que peut proposer le projet américain.
Alors, en deçà, on ne peut pas leur en vouloir parce que les Chinois sont vraiment, là aussi, novices en la matière. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler d'eux. Ils ont fait beaucoup de premières, de coups d'éclat sur la Lune en particulier. Mais ils n'ont jamais dépassé la Lune. C'est la première fois que la Chine s'aventure au-delà de la Lune. C'est une première échappée interplanétaire.
C'est l'espace profond, c'est ça ?
Voilà, qu'on peut qualifier effectivement d'espace profond. Mais bon, c'est normal qu'ils soient en retard, qu'ils ne soient pas au niveau par rapport à d'autres agences spatiales beaucoup plus expérimentées, les Américains en particulier, comme je le rappelais tout à l'heure, qui ont entamé un programme martien à la fin des années 50 et qui ont eu les premiers survols dans les années 60. Donc là, la Chine entend rattraper son retard. Effectivement, ils ne sont pas à l'état de l'art et au même niveau de maturité technologique que les Américains. Il y a effectivement un écart qui est très important. Mais néanmoins, ils n'ont pas voulu faire une petite mission. Ils ont voulu frapper un grand coup, encore une fois. Preuve, effectivement, qu'ils sont vraiment dans un état de confiance très important, un peu galvanisé d'ailleurs par les succès qu'ils ont pu avoir ces dernières années sur la Lune. Et donc, ils ont visé tout de suite une mission complète. Et personne n'a jamais fait ça sur Mars. Pour leur première mission martienne, ils ont voulu avoir les trois étages, orbiteur, atterrisseur et rover. Ce qui, évidemment, complique énormément d'un point de vue technologique, l'architecture de la mission, mais c'est l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc, il s'agissait de faire une démonstration de force. Il s'agissait aussi de non seulement de rattraper, mais de doubler l'Inde, en fait, qui avait beaucoup frustré la Chine, puisqu'en 2013, c'était la première puissance asiatique à mettre en orbite, donc une sonde martienne qui avait été vécue un peu comme une humiliation par la Chine. Et donc, la Chine ne pouvait pas faire une petite mission, faire comme ce que avait fait l'Inde il y a déjà plusieurs années. Donc là, ils veulent rattraper leur retard et puis aussi se positionner devant les autres concurrents indiens ou japonais, par exemple. Et donc, avoir une mission quand même qui est extrêmement ambitieuse. Je rappelle, enfin, pour terminer, qu'il y a quand même 13 instruments scientifiques, à la fois sur l'orbiteur et sur le rover chinois. Donc, il y a là aussi beaucoup de sciences qui devraient être produites dans les mois, dans les années à venir.
L'orbiteur, c'est la partie qui va du coup rester en orbite, c'est ça, autour du...
Voilà, effectivement...
C'est une question bête, mais je préfère la poser.
Le mois dernier, la sonde Tianwen 1, donc c'est satellisée en orbite. Elle va réaliser pendant 3 ou 4 mois, donc elle va rester en fait sur cette orbite de reconnaissance, ce qui va lui permettre de prendre des images en haute résolution de la région où elle va déposer son rover. Donc effectivement, la Chine ne dispose pas encore de ces images. C'est normal, c'est la première fois qu'elle met un vaisseau en orbite martienne. Et donc, elle a besoin de ce temps pour avoir des images à très haute résolution, donc du site d'atterrissage. Évidemment, pour essayer d'identifier un endroit qui soit plutôt dégagé de rochers, pas trop poussiéreux non plus, puisque ça pourrait nuire au fonctionnement du rover. Donc, trouver un peu l'endroit optimal pour que l'orbiteur largue donc dans l'atmosphère martienne, donc l'atterrisseur qui déposera lui-même le rover. Ça devrait se passer soit en mai, soit en juin.
Ok. Et tu parlais tout à l'heure, avant que je te coupe, des équipements que portait le rover au nombre de 13. On sait beaucoup de choses à ce sujet ou il y a encore quelques zones d'ombre quand même hein?
Alors, ça dépend. Il y a effectivement certains instruments où il y a très peu de détails qui ont été communiqués, ce qui est un peu difficile à déchiffrer pour certains scientifiques avec qui j'ai pu m'entretenir. On a simplement des intitulés sans savoir exactement, là aussi, quel est un peu l'état de l'art et la maturité technologique donc des Chinois. Ce qu'on constate néanmoins, c'est qu'ils avancent vite et fort. C'est pas qu'une démonstration technologique. Les Chinois, pendant longtemps, se sont contentés aussi de refaire ce que les autres faisaient, d'axer leur mission surtout sur la technologie et sans faire beaucoup de science. Là, il y aura quand même un radar à pénétration de sol, un magnétomètre, des spectromètres, donc qui permettront de recueillir des informations sur le paysage, la topographie martienne, mais aussi d'essayer d'identifier sur le site où le rover devrait atterrir des glaces d'eau souterraine dont on a des indications par des orbiteurs notamment.
Le projet de terraformation de Mars sera le point culminant de l'histoire de l'exploration humaine.
Qu'advient-il des données récupérées par les différentes missions? Est-ce qu'il y a un niveau de coopération? Est-ce qu'on se passe, en gros, l'information recueillie d'une agence spatiale à une autre?
Alors,
je suis très naïf. Hein.
Non, alors, même s'il y a évidemment des rivalités politiques, commerciales, des tensions géopolitiques, les scientifiques ont l'habitude de collaborer. Même à l'époque de la guerre froide, où des tensions géopolitiques pouvaient être extrêmement vives, il y a toujours eu des scientifiques qui pouvaient se retrouver, se parler, par exemple, au CERN, pour ce qui concerne la physique nucléaire, la physique des particules. Mais bon, bref, il y a énormément de colloques en planétologie et autres, et donc les scientifiques de différentes nationalités peuvent s'y retrouver, échanger tout un tas d'informations. Il y a une grande variété de journaux où des informations sont publiées, des informations donc ouvertes qui sont disponibles pour la communauté scientifique. Et évidemment, les scientifiques chinois ne se sont pas privés de faire évidemment un travail très minutieux de documentation, de collecte, pour recueillir déjà énormément d'informations pour ce qui était déjà publié, connu. Après, c'est vrai qu'il y a certaines informations qui sont peut-être un peu plus sensibles, des savoir-faire qui sont jalousés, qui sont communiqués plus difficilement. Ce qui est sûr, c'est qu'entre les Européens et les Américains, donc la collaboration est très étroite. D'ailleurs, dans le spatial et pour cette mission de retour d'échantillons en particulier, l'Europe collabora étroitement pour ramener donc les échantillons que Perseverance va bientôt recueillir et ramènera d'ici une dizaine d'années sur Terre. Donc évidemment, on s'échange énormément d'informations. Mais c'est vrai qu'entre les États-Unis et la Chine, il y a une interdiction, il y a des restrictions très fortes donc, qui ont été votées par le Congrès américain au début des années 2010 et donc qui visent un peu à contenir l'essor, le développement technologique de la Chine, ce qui fait qu'effectivement il y a des composants électroniques qui ne peuvent pas se balader n'importe comment, qui sont sujets à des réglementations, ce qu'on appelle les réglementations ITAR, et donc ce qui peut effectivement priver un peu la Chine de certains d'avoir accès à certaines technologies.
Oh, ok, très clair. On a pas mal parlé des projets émiratis et chinois, je veux bien qu'on revienne, on refait une petite pirouette en arrière sur Perseverance qui a quand même, on va dire, des particularités technologiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Alors effectivement, même si la mission principale de Perseverance est tournée vers donc l'exobiologie, la recherche d'éventuelles traces de vie passée, la NASA en a profité pour intégrer dans son rover deux démonstrateurs technologiques. Le premier s'appelle MOXIE. C'est une expérience en fait qui vise à fabriquer de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone qui sature l'atmosphère martienne. Et donc par des réactions chimiques, électrolytiques, l'idée c'est de montrer qu'on peut transformer tout ce CO2, tout ce gaz carbonique qu'il y a sur Mars pour en faire de l'oxygène. Suivez mon regard.
La terraformation.
Effectivement, l'idée que ça puisse servir dans des dizaines d'années à venir pour d'éventuelles colonies humaines, donc cet oxygène pouvant effectivement aider des humains donc à vivre sur Mars. On verra bien. En tout cas, c'est la première fois qu'on a ce type d'expérience et ça devrait produire, je crois, 10 grammes d'oxygène par jour. Et donc, le deuxième grand démonstrateur technologique donc, qui est embarqué sur le rover Perseverance, il s'appelle Ingenuity. Donc, c'est un hélicoptère, un drone, qui vise à montrer qu'on peut voler dans l'atmosphère martienne. Ce qui ne va pas du tout de soi, puisqu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, en parlant de la propagation des ondes acoustiques sur Mars, l'atmosphère de Mars est très ténue. Elle est très peu dense, la pression est très basse, ce qui rend effectivement un vol extrêmement difficile, puisque au niveau de la portance. Et donc, la NASA a mis plusieurs années à concevoir ce petit robot qui aura la particularité d'avoir des pales, des rotors qui tournent extrêmement rapidement, à peu près à 2500 tours minute, ce qui devrait lui permettre d'avoir effectivement suffisamment de portance pour évoluer dans l'atmosphère martienne. Alors ce sera des petits vols de reconnaissance, ça durera que 90 secondes seulement, mais en tout cas ce sera effectivement assez fabuleux de voir ce petit hélicoptère faire des vols de reconnaissance, parce que l'idée c'est qu'on puisse dans les missions ultérieures utiliser ce type d'aéronef pour vraiment avoir des éclaireurs dans des missions d'exploration encore plus ambitieuses.
Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers et le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même.
On arrive quasiment à la fin de la mission et finalement, je n'ai pas posé la question la plus importante, c'est pourquoi ? Pourquoi on va sur Mars et pourquoi on déploie ces dizaines de milliards de dollars pour explorer une planète qui est morte et qui potentiellement ne recèle aucune trace de forme de vie passée ?
Eh bien, effectivement, tout ça pour répondre à une question, une simple question, si je puis dire. La vie existe-t-elle ailleurs dans l'univers, dans le système solaire ? Et en particulier, est-ce que Mars a pu abriter une forme de vie dans le passé ? On a quelques raisons de penser que ça pourrait être possible. L'endroit où Perseverance a été déposée, donc qui s'appelle le cratère G0. En fait, c'est un vaste cratère d'impact de 45 km de diamètre. En fait, on sait qu'il abritait, il y a 4 milliards d'années, un lac. Donc, il y avait une énorme étendue d'eau liquide. Il y avait donc des rivières qui se jetaient dans ce lac et qui s'en déversaient par ailleurs. Et donc, qui ont déposé, pendant des dizaines, voire des centaines de millions d'années, des sédiments où, effectivement, on pense que des traces de vie pourraient être préservées. Des carbonates, des argiles, des alluvions, qui ont la capacité de bien conserver donc, les fossiles. On le sait sur Terre. Et donc, c'est ça la cible de Perseverance. Dans quelques mois, après que le drone Ingenuity aura été lancé, donc le rover va se diriger vers sa cible, donc vers ce delta de rivière, pour effectivement faire ses premières mesures, commencer à creuser à quelques centimètres dans le sol pour prélever des carottes et donc chercher effectivement ces fameuses traces de vie, des biosignatures, des traces chimiques d'une vie qui aurait pu exister il y a 4 milliards d'années sur Mars. Pourquoi ? Parce que, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a 4 milliards d'années, Mars et la Terre primitive étaient des planètes qui étaient quasiment jumelles. Elles se ressemblaient énormément. Il y avait des étendues d'eau liquide, il y avait donc une atmosphère. Il y avait un volcanisme, il y avait un champ magnétique protecteur. En gros, les conditions qui ont conduit à l'apparition de la vie, qu'on date à peu près à 3,7 milliards d'années sur Terre, étaient un peu les mêmes, donc sur Mars, au même moment. Donc ce qui s'est passé sur Terre il y a 3,7-3,8 milliards d'années aurait pu aussi se passer sur Mars, et c'est la question auquel Perseverance va tenter de répondre.
Très clair. Et qu'en est-il de la suite pour les 10-15 prochaines années, non pas milliards d'années, pour nos trois missions ? Alors j'imagine qu'il y a plus d'actualité pour Tianwen et pour Perseverance. Qu'est-ce qui est prévu de leur côté pour le retour, par exemple, des données et des prélèvements qui ont été effectués ou qui vont être effectués ?
Alors pour la sonde Emirati, effectivement, petit à petit, là aussi, on vérifie, on calibre les instruments, on vérifie que tout se passe bien. Et après, il y a une stabilisation qui se fait dans l'orbite scientifique où là, on va commencer vraiment à prendre des données, puis dès cet été, à les transmettre à la communauté scientifique. Pour la mission chinoise, évidemment, ce qu'on attend avec impatience, puisque la première partie du pari a été réussie, la mise en orbite, ce qui est déjà pas mal. Le plus dur, c'est vraiment l'atterrissage. Je rappelle que pour le moment, seuls les Américains ont réussi à se poser sur Mars. Ils l'ont fait 9 fois, mais les Européens, les Russes se sont plantés à chaque fois. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'atterrir sur Mars que sur la Lune, à titre de comparaison. Et donc, c'est ce quoi les Chinois vont essayer de faire d'ici quelques mois. Donc, ce sera évidemment un test pour voir effectivement, est-ce que la Chine est vraiment une puissance spatiale complète ? Est-ce qu'elle réussit son pari ? Cette démonstration de force dont on parlait tout à l'heure, donc suspense, mais on verra ça donc d'ici peu de temps. Et pour ce qui concerne la mission américaine, donc la prochaine étape, c'est donc l'envol d'Ingenuity. Ensuite, l'arrivée sur le delta de rivière, là, pour recueillir des échantillons. Et puis, effectivement, au fil des mois, donc Perseverance va recueillir ces petites carottes, les mettre de côté, et elles seront récupérées dans quelques années par des missions ultérieures qui reviendront donc sur Terre en 2031.
Donc on a parlé de Mars et on en repart. Merci commandant Daninos de nous avoir ramené à bon port. Le temps de retrouver Terre, je vous invite à nous laisser un commentaire. Je suis désolé de la blague. Ce ne sont ni les jeux de mots pourris, vous l'avez compris, ni les moyens qui manquent. Déposez-nous un petit mot et 5 étoiles sur l'USS iTunes, un message perso à la base mail audio@20minutes.fr ou un message audio via la sonde Shello et le lien dans la description de cet épisode. Je vous dis à dans 2 semaines et n'oubliez pas, en mars comme en avril, on en va de la science dans tous les sens.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.